Pour introduire le docteur Olivier Flournoy, qui est psychanalyste, membre ordinaire et ancien président de la Société suisse de psychanalyse. C'est un grand plaisir, mais aussi une tâche redoutable, que d'introduire Olivier Flournoy. Nombreux sont ceux d'entre nous aussi ce soir qui ont une dette de reconnaissance envers lui comme superviseur, comme enseignant et comme ami. Et cela n'est pas fait pour simplifier notre travail. Après sa formation psychiatrique à la clinique universitaire de Seri, Olivier Flournoy a beaucoup voyagé. D'abord aux États-Unis, où il a rencontré la psychanalyse américaine de la Menninger Clinic de New York. Puis à Paris, où il a achevé son training en respirant l'air de l'un des moments plus extraordinaires et créateurs de la psychanalyse française. Et de cette psychanalyse française et francophone, il est depuis l'une des voix les plus écoutées et respectées. Cette psychanalyse francophone à laquelle il a sans doute contribué avec son apport théorique très important. Proche du groupe de la Nouvelle Revue de Psychanalyse, il a marqué avec ses contributions quelques-uns des grands numéros de cette publication, en avançant des concepts tels que celui d'image-écran, de vecteur du vide et d'autres. Je vous rappelle aussi ses principaux ouvrages, du symptôme au discours, rapport fait au congrès des langues romanes de 1967, le temps d'une psychanalyse aux éditions Bellefond, l'acte de passage, Théodore et Léopold, et son dernier, défense de toucher ou de la jouissance du dit, essai de métapsychanalyse. Dans son œuvre psychanalytique, Olivier Flournoy a finalement créé sa propre vision et interprétation de la psychanalyse. Exemple réussi de ce que je pense être l'unique salut de ce Sisyphe et passeur d'âme qu'est quelque part le psychanalyste. Le talent par lequel on joint les bouts d'un solide métier d'artisan et de l'invention créative. Il y avait au début une psychanalyse viennoise, romantique et métabiologique. Puis une psychanalyse américaine qui a composé avec le monde médical et académique par sa construction psychologique. Enfin, une psychanalyse parisienne à l'enseigne du thème du désir et au risque d'un certain culturalisme. Aujourd'hui, il y a aussi, grâce à Olivier, une psychanalyse de Genève, une psychanalyse intersubjective, une psychanalyse indépendante de la biologie et de la psychologie, ouverte seulement à la rencontre des deux êtres humains dont l'Œdipe va devenir le mythe et la structure. Nous l'aimons bien, cette psychanalyse. Clinique, elle met au centre de son savoir l'expérience de la cure. Optimiste, elle voit l'homme comme ouvert sur son devenir et son progrès, se refusant à l'enfermer dans un quelconque moule psychopathologique préétabli, et le soustraignant à ces tragiques qui hantent tant de nos théories, la première peut-être celle de Freud. Éthique, car elle se base sur la reconnaissance du patient comme personne participant à part entière et à part égale à l'interprétation psychanalytique. Originale, car elle se démarque de tout réalisme psychologique et de l'esclavage des théories préétablies. Et enfin, métapsychanalytique, comme je pense, il aimerait le dire, car elle travaille et se théorise dans l'après-coup du dit et de l'éprouvé qu'il institue. Rebelle, enfin, indépendante, car elle prône le rêve et son désir comme ce qui vient nous réveiller et non pas comme ce qui a à s'apaiser dans l'adaptation et la renonciation dépressive. Ce soir, cher Olivier, nous vous avons défié à vous confronter avec le thème de la névrose, ce carcan psychopathologique, mais aussi cette pierre angulaire de notre théorie et de notre pratique. N'y voyez pas le défi de quelqu'un comme moi, qui, né dans un ancien archiduché habsbourgique, garde une sympathie secrète pour la nature Wissenschaft et la conception romantique des pulsions, l'enracinement biologique de notre être et l'Œdipe complexe. Mais je ne me fais pas de soucis. Par votre titre déjà, Les Mal-Aimés, vous avez bouleversé mes plans et navigué avec brio et rigueur droit devant nous dans le grand large de la clinique psychanalytique. Mesdames, Messieurs, Olivier Flournoy, psychanalyste à Genève.
Merci, je suis très touché, Antonio. Alors, le titre que Madame Schmidt-Kitsikis nous a proposé, c'est « Qu'en est-il aujourd'hui des grandes organisations névrotiques d'antan? Un tel titre a l'avantage de ne préciser ni de quelles organisations il s'agit, ni ce qu'on entend par antan. S'agit-il de l'Antiquité, du Moyen-Âge, du XIXe siècle, ou encore d'avant le 1er janvier 1996, date à laquelle la Suisse est entrée sous le règne de la Lamalle? Je vais reculer cet objet. Ces organisations névrotiques ne sont bien évidemment pas le propre d'un seul théoricien. Par exemple, au XIXe siècle, plusieurs sommités y ont contribué, et ceci dans différentes langues, allemand, français, anglais, russe, etc. Mais pour mon propos, je me référerai aujourd'hui avant tout à Freud et à l'occasion à ce qu'il a dit des névroses et des psychoses, auxquelles je pense fait quand même allusion votre titre. Et d'emblée, je me prononcerai. Je pense que ces organisations ont conservé toute leur valeur. Encore faudra-t-il dire laquelle, quelle valeur? Valeur de symptômes, valeur de maladie, valeur didactique, etc. C'est ce qu'on va voir. Mais que leurs manifestations, leur expression symptomatique ont changé, ou tout au moins se sont atténuées, au point que bien souvent on ne s'y reconnaît plus. Et de plus, je pense qu'il s'agit d'une question de mode. Freud en a donné parfois des définitions aussi simples que lumineuses. Par exemple, en 1923, il écrit, je le cite, « La névrose de transfert correspond au conflit entre moi et ça. La névrose narcissique à celui entre moi et sur moi. Et la psychose à celui entre moi et monde extérieur. » Et il ajoute, « Certes, nous ne savons pas dire d'emblée si nous avons acquis de nouvelles vues ou seulement enrichi notre trésor de formules. Mais j'estime que cette possibilité d'application doit nous donner malgré tout le courage de continuer à ne pas perdre de vue la subdivision proposée de l'appareil animique, ça c'est la traduction de la planche, mais que j'aime bien, de l'appareil animique, en moi, sur moi et ça. » Que signifie ce commentaire? Eh bien, il veut dire que pour Freud, ici du moins, la psychopathologie des névroses est secondaire à son intérêt pour l'appareil animique et que c'est ce dernier qui prime. Autrement dit, l'étude des névroses, si l'on entend par là des maladies, est un moyen pour arriver à d'autres fins, c'est-à-dire à la connaissance de l'appareil psychique et de son fonctionnement. Et à la fin de ce même article, on peut lire ceci. Je cite, « Par là, les inconséquences, bizarreries et folies humaines accéderaient à une même lumière que leur perversion sexuelle, par l'acceptation desquelles ils s'épargnent en effet des refoulements. » Et voilà l'idée qui se confirme. Les perversions seraient explicables comme les bizarreries et les folies humaines, lesquelles folies pourraient être dues à un refoulement inefficace ou manqué. D'où l'on peut penser que le refoulement à l'origine des névroses est aussi un processus de normalisation ou de socialisation. Et une autre question se profile aussitôt. Les névroses sont-elles des maladies, ou plutôt, comme les perversions et les folies humaines, des manifestations de ce qu'on appelle parfois une fragilité psychique? Sans doute les symptômes bruyants, paralysie hystérique, phobie handicapante, cérémonieux obsessionnels extravagants, sont devenus rares. Mais ce genre de symptomatologie se dévoile toujours un jour ou l'autre en psychanalyse, souvent de manière fort discrète. La raison en serait que les malades et la communauté en général les connaissent, ces symptômes, et qu'il s'agit de cacher ces tares plutôt que de les exhiber pour attirer une bien improbable compassion. Ce qui pose à nouveau la question de la maladie. Un malade peut-il ainsi modifier sa symptomatologie au gré de l'ambiance, ou n'est-ce pas précisément là une indication en faveur de cette fragilité psychique? Par ailleurs, Je ne pense pas que la clientèle psychanalytique se soit modifiée, comme certains l'affirment, dans le sens d'une aggravation des symptômes morbides. Les hommes au loup ou les hommes au rat de Freud n'étaient de loin pas des cas bénins. Et si les cinq psychanalystes de Freud sont spectaculaires, cela ne signifie pas que Freud n'ait pas eu plusieurs autres cas, finalement comme vous et comme moi, en analyse. Cela veut dire simplement que ces cas sont devenus spectaculaires du fait de leur présentation à valeur didactique faite par Freud. Le devenir de ces entités névrotiques étant ainsi à discuter dans un cadre plus général, plus global que celui de la psychopathologie, la question de la validité de la psychanalyse se pose alors crûment. Si la psychanalyse est une méthode de mise à jour d'un fonctionnement mental universel, non malade, n'est-elle pas destinée à disparaître ou à ne conserver qu'un intérêt académique de procédé de recherche pour philologue? Eh bien, je vais tenter de développer cette interrogation en selon deux parties différentes l'une de l'autre. La première partie ira dans le sens du déclin et de la disparition programmée de la psychanalyse. La mode exigeant, comme les mini-jupes ont succédé au new look, la mode exigeant des psychothérapies courtes et efficaces. Ce premier chapitre sera d'ordre socio-économique ou géopolitique et forcément sommaire, car ce serait à un sociologue d'y répondre, d'un point de vue où je ne me situe qu'en amateur. Le second concernera ma conviction que les modes sont passagères et que la psychanalyse est également une méthode d'action de la pensée sur la pensée d'autrui. Il ira dans le sens de la pérennité de la psychanalyse, un procédé fondé sur la pérennité des inconséquences humaines, justement, et sur leurs modifications possibles. Cette seconde partie sera bien plus personnelle dans la mesure où je la centrerai sur le besoin de ce que j'appelle une métapsychanalyse, soit sur le manque, selon moi, d'une théorie explicite psychanalytique de l'action d'une pensée sur une autre pensée chez Freud. Alors ma première partie, c'est donc l'évolution socio-économique et le déclin programmé de la psychanalyse. Si au cours de ce XXe siècle finissant, on a assisté à un développement massif de l'intérêt pour le fonctionnement de la pensée et du psychisme individuel dans les professions de la santé, du fait de la psychanalyse entre autres, on assiste à l'aube du XXIe siècle à un retour impressionnant à l'efficacité objective, rapide, simplificatrice pour régler le problème psy de manière aussi économique que possible. C'est là une des conséquences de la délégation des problèmes de santé à l'État, lequel est en situation, dit-on, de plus en plus précaire du point de vue économique. Et cela mène à des conflits de plus en plus aigus entre certains géants de l'économie qui tentent de tirer leur épingle du jeu au moindre coût. Je mentionnerai rapidement trois de ces acteurs en cause. D'abord, l'industrie chimique et pharmacologique. Si de nos jours l'épidémie de sida a temporairement capté l'attention de cette corporation, la corporation chimico-pharmacologique, au poids et au pouvoir économique absolument gigantesque dans notre société, le psychisme et ses troubles n'en demeurent pas moins un créneau financier de premier ordre pour son avenir grâce aux médicaments dits psychotropes. Psychotropes, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que des médicaments agiraient sur le psychisme via le physique, le physiologique. Exemple, la digestion d'un comprimé va altérer la manière de penser. Altérer, on s'en doute. Qui n'a essayé d'ingurgiter un jour ou l'autre des comprimés de et n'en a ressenti les effets sur sa manière de penser. Mais améliorer, ça, c'est une autre question. On a alors plutôt affaire à des médicaments de portée comportementale, plus quantitatif que qualitatif, et visant à l'excitation ou à l'accalmie, à l'apaisement des phénomènes somatiques provenant du psychisme. Il faut ainsi distinguer entre psychisme se référant à la pensée, aux idées, et psychologie, psychologie physiologique, se référant au comportement et à la conduite. Et si les médicaments psychotropes se multiplient et ont des actions de plus en plus complexes sur les molécules, sur les cellules, sur le système nerveux, sur les humeurs dans lesquelles baigne ce système, les organisations névrotiques s'appauvrissent de manière tout aussi évidente. La dépression est reine avec toutes ses variantes possibles. Pensons au petit Hans. Vous connaissez tous le petit Hans, une des cinq psychanalyses. Petit Hans a peur des chevaux. C'est ça son problème. Allez dans une pharmacie et demandez un médicament psychotrope équinotrope. On vous répondra que ça n'existe pas. Mais peut-être, vous dira-t-on, le petit Hans souffre de dépression. Auquel cas, il y a des dizaines de médicaments psychotropes disponibles, aussi variés qu'efficaces. L'industrie chimique, sur laquelle nous fondons tant d'espoir, vit de la dépression. Elle la cultive, elle la chérit, mais elle ignore tout des psychotropes spécifiques. Aucune pilule pour le névrosé obsessionnel, qui se lave 50 fois par jour. Rien pour un pauvre R qui ne peut plus sortir de chez lui de peur des autobus. Et bien entendu, rien de plus pour les paralysies hystériques. On comprend mieux pourquoi les organisations névrotiques perdent de leur intérêt. Et rien ne laisse prévoir, par contre, une diminution du nombre des déprimés, bien au contraire. Sauf lors des grandes catastrophes naturelles ou sociopolitiques. Ce qui suggère à nouveau que le problème psy ne serait pas un problème de psychopathologie au sens galénique du terme, mais plutôt au sens hippocratique. J'y reviendrai rapidement dans un instant. Deuxième acteur en jeu, les assurances. L'assurance maladie brasse également des sommes d'argent absolument colossales, relativement faciles à estimer de manière approximative. Pour la Suisse, vous êtes tous au courant, il suffit de multiplier par 7 ou 8 millions le prix de l'assurance maladie minima que vous avez payé au début de l'année. Les assurances sont malheureusement un service qui ne produit strictement rien. Et de plus, elles sont, du fait de ces sommes énormes qu'elles gèrent, à la merci des décisions politiques concernant précisément l'économie et la haute finance. Et de nos jours, on assiste à leur propos à un étonnant phénomène qui aura sans doute d'importantes répercussions dans l'avenir. Alors que le monde entier prône le libéralisme comme vertu cardinale, après 40 années de totalitarisme effectif ou menaçant, on observe, au niveau des professions de la santé, une mainmise du politique absolument impressionnante. La tendance est à l'étatisation à outrance, par l'intermédiaire précisément de l'assurance maladie. Et à propos des organisations névrotiques et de leur diagnostic, chacun sait que les assurances exigent dorénavant un diagnostic sur les factures médicales. Pourquoi ? Eh bien, bien évidemment, pour exercer une surveillance, et c'est là un formidable moyen de pression. Exemple, un médecin envoie sa facture sans diagnostic. L'assurance écrira à son assuré qu'elle ne lui rembourse rien, à lui d'exiger un diagnostic sur sa facture. Comme Ponce Pilate, elle s'en lave les mains. Mais il y a pire. Avec un diagnostic, les assurances auront le loisir de répondre que ce diagnostic est inacceptable, car il ne correspond pas aux critères exigés par l'autorité politique et administrative de surveillance. Par exemple, la névrose obsessionnelle serait une organisation névrotique d'antan et non pas une maladie. C'est alors que l'on retrouve la primauté de la dépression. Les névroses de transfert vont nécessiter des traitements de longue durée pendant des mois et des années, lesquelles sont impossibles à surveiller, comment peut-on surveiller du bavardage, est fort coûteux. Les assurances n'y trouveront aucun profit. Et il leur sera facile d'arguer que les névroses de transfert sont bien des organisations névrotiques et non pas des maladies. Alors que les dépressions pourront se justifier d'un traitement raisonnable par comprimé psychotrope, soit un acte médical infiniment meilleur marché et bien plus facilement contrôlable. D'où l'on peut risquer à prévoir que les organisations névrotiques seront rayées un jour ou l'autre des listes de diagnostics imposées par l'administration. Même les névrosés l'ont compris. Mieux vaut désormais une bonne dépression qu'une hystérie qui ne sera pas prise au sérieux. Et ce qui, à mon avis, est plus grave encore, c'est que l'autorité politique et administrative aura nécessairement accès, sinon comment ferait-elle ses contrôles, à la pathologie de tous les citoyens, sans exception. Ce qui permettra des procès kafkaïens et des chasses aux sorcières en toute légalité. Le drame de la Lamalle n'est pas tellement dans la rupture du secret professionnel, médical, individuel, mais bien là, sous prétexte d'un socialisme généreux, cette loi fournit le terreau légal à un socialisme étatique permettant les pires dérives totalitaires. De voir la Suisse, un pays que j'ai toujours aimé pour sa tolérance et son libéralisme, sombrer dans ce légalisme aussi dangereux me désole. Tout ceci signifie que dans l'optique des assurances, il va probablement falloir établir des diagnostics pilules, car elles ne savent pas que faire de ces ruineux bavardages psychothérapiques non scientifiques. Par contre, avec un diagnostic pilule, elles pourront exercer leur surveillance de près. Or, comme on l'a vu, il n'existe pas de pilule contre les névroses de transfert. Le troisième groupe en jeu, ce sont les traitants. La psychothérapie au sens large s'est révélée, il faut bien le dire, un formidable moyen de gagner sa vie avec le traitement du comportement, ce qui demande un outillage extrêmement bon marché. La compassion, la compréhension, les conseils bien intentionnés, élevés au rang de thérapeutiques psychotropes, sont bien rémunérés ou l'ont été. On s'est trouvé comblé avec le gain facile et le bon sens qu'on possède tous. Pas besoin de se creuser les méninges. Pas besoin de se creuser les méninges car il existe un dénominateur commun pour les gens soignés par le psychothérapeute, c'est l'isolement. La solitude intérieure. Que cet isolement soit actif, passif ou se manifestant dans les faits, l'isolement du sujet face à ses inconséquences symptomatiques invite à la rencontre psychothérapeutique. D'où ce diagnostic passe-partout qui en découle, la dépression, un diagnostic qui convient décidément à tous. Car s'il n'est pas toujours facile de déceler la solitude que cache la détresse psychique, il est par contre enfantin de parler de dépression, un terme que tout le monde comprend à sa manière. La psychothérapie court alors le risque d'être peu intéressée par les diagnostics différentiels, si ce n'est dans une optique comportementale ou d'apprentissage, ou encore moins intéressée par les théories compliquées des psychanalystes qui cherchent à dépasser les phénomènes. Et le but de cette psychothérapie, la réinsertion sociale, peut de plus se confondre dangereusement avec son action, qui elle-même est déjà une réinsertion à deux ou dans un groupe. Parmi les psychothérapeutes, les psychiatres, eux, par contraste avec les psychothérapeutes, semblent plus intéressés par le lien entre le corps et l'esprit, un lien qui n'a pas fini du reste de tourmenter les penseurs de tout temps. Et si les psychiatres admettent d'office un tel lien sans plus s'y intéresser, ils s'orienteront sans autre vers les moyens de modifier l'équilibre psychosomatique, par l'action médicamenteuse, s'ajoutant aux interventions actives de type coercitif, telles l'hospitalisation du corps ou sa contrainte. L'hospitalisation protège la société contre l'individu, elle protège l'individu contre la société, elle contribue à la resocialisation de l'individu dans un groupe supposé tolérant ou tolérable. La médication psychotrope permet de renoncer en plus à la camisole de force, à l'enfermement, à l'électrochoc, à l'insulinothérapie ou encore à l'abominable lobotomie avec soulagement du fait que leur efficacité relative demeurait parfaitement inexplicable, si ce n'est en les comparant aux cataclysmes naturels. Et ici aussi, si la profession psychiatrique pour survivre veut s'entendre avec les deux groupes précédents, plus le terrain d'entente sera simplifié, plus les relations seront aisées et la dépression s'offrira comme organisation fêtière bien utile. Qu'importe si l'obsessionnel est obsédé, si le phobique a peur, si l'hystérique est angoissé ou paralysé, si le paranoïaque est empoisonné ou empoisonnant, le pervers pervers, ou bien nous avons affaire à des problèmes concernant le département de justice et police, ou alors celui de la santé publique qui, pour des raisons socio-économiques de surveillance, sera contraint de simplifier ses diagnostics différentiels. Le spectaculaire d'une pathologie névrotique n'intéresse plus personne et le bavardage psychanalytique peut tomber aux oubliettes. Voilà pour cette première partie. Et j'en arrive à la seconde, que j'intitule « Besoin d'une théorie, d'une thérapeutique de la pensée ». Selon ma suggestion, d'une métapsychanalyse, une théorie d'une thérapeutique de la pensée assurant du même coup la pérennité de la psychanalyse. C'est un besoin qui reflète un manque d'autant plus difficile à combler qu'une métapsychanalyse se devra d'être théorie de l'action de la pensée sur la pensée avec comme fondement et comme raison d'être non pas les maladies, mais précisément les inconséquences humaines, ce qui pose aussitôt le problème éthique de l'appréciation de ces inconséquences. Si la complexité psychosomatique, donc celle d'un psychisme accessible par le physiologique, acte médical ou pharmaceutique, ou par le comportement, thérapie cognitivo-comportementale, groupale, art-thérapie, hypnose, sophrologie, etc. Si cette complexité est telle, que dire de la complexité des actes de pensée, d'un psychisme dégagé des phénomènes comportementaux psychophysiologiques, d'un psychisme auquel on n'a accès que par le langage, un langage traduisant mal les effets de l'inconscient, un langage qui, de ce fait, peut troubler notre entendement et modifier notre propre pensée, ou alors par l'écoute d'un discours, écoute supposée à tort bannir tout interventionnisme, alors que l'inconscient, ici également, ne peut rendre une telle écoute que subjective, voire arbitraire. Si les somaticiens s'épuisent à définir l'état de maladie, vous savez qu'on n'a pas encore réussi à bien définir cet état de maladie, les psychologues s'épuisent à osciller, à bon droit, entre maladie psychique, déséquilibre psychique, fragilité psychique, n'ayant même pas le secours ou le recours à la conviction médicale comme quoi la maladie psychique existe. Pris entre le charybde de la pensée objectivant le fonctionnement d'une pensée laquelle ne peut s'objectiver sans distorsion, et le scylla de la subjectivité de sa propre pensée, donc de ses propres distorsions par rapport à l'espoir illusoire d'une objectivation, Freud, ne cessant de se référer à l'un comme à l'autre, en est arrivé à la conviction que l'état de maladie psychique n'est pas différent de nature de l'état normal. C'est ainsi que sa métapsychologie, sa théorie du fonctionnement d'un appareil psychique, se veut universelle, valable aussi bien pour les psychoses, les névroses et les perversions que pour la soi-disant normalité. Une conviction qui ne va pas de soi et qui, sur le plan somatique, a été énergiquement soutenue à la même époque par Claude Bernard. La pathologie, affirmait-il, n'est qu'une distorsion, un cas particulier de la physiologie. Et vu sous l'angle de la pathologie, la maladie mentale, comme la maladie somatique, sera traitée selon les grandes options hippocratiques ou galéniques qui sont toujours d'actualité. En deux mots, Hippocrate estimait que la maladie est due à une cause externe naturelle. Et comme la nature, pensait Hippocrate, est foncièrement bienfaisante, le décours habituel de la maladie va tendre spontanément à la guérison. On peut alors aider le malade en agissant sur la nature, sur l'environnement. On peut penser au changement de milieu et aux cures, par exemple. Et Hippocrate avait aussi observé que la guérison se passait souvent sous forme de crises résolutives. Vous savez que les pneumonies classiques, qu'on voit plus beaucoup de nos jours, à pneumocoque, on est très malade pendant 8 jours, puis au bout de 8 jours, il y a une énorme crise, et puis la personne est guérie. Et alors, devant ces observations, Hippocrate a imaginé de procéder à des saignées, lesquelles devaient imiter les processus naturels de crise et accélérer ainsi la guérison. On remarque ici la similitude avec ces fameux électrochocs ou cette insulinothérapie qui sont des sortes de cataclysmes provoqués, rappelant ces cataclysmes naturels. 4 siècles plus tard, Galien offre l'idée d'un agent morbifique externe qui s'introduirait dans l'organisme. Un agent mal intentionné, virulent, un virus. La nature, de bonne qu'elle était, est devenue ambivalente. Et la saignée servira dès lors à expulser l'agent morbifique. C'est bien là ce que les neuropsychiatres feront en attribuant, par exemple, au XIXe siècle et au début du XXe, à la syphilis la plupart des dérèglements de la pensée. Ceci a juste raison pour ce qui est de la paralysie générale. Et en pourchassant le virus morbifique exogène, avec l'espoir que le traitement somatique guérira les manifestations psychiques secondaires à l'infection du corps. Revenons-en à la psychanalyse et à la métapsychologie. La métapsychologie, par rapport à ces deux aspects hippocratiques et galéniques, du traitement des maladies, fonctionne en vase clos. Il n'y a ni nature bienveillante, ni nature ambivalente. L'extérieur, pour nous ce seront par exemple les parents, s'y trouve intériorisé sous forme de surmoi. Et le seul contact entre psychisme et... Là, il n'y a pas de mot qui correspond. Dire entre psychisme et physisme, mais non. Entre psychisme et physiologique. Se fait, selon cette théorie, au niveau de la source des pulsions. La métapsychologie, bien sûr, comporte, comme toute théorie scientifique, des points invitant à l'argumentation. Alors, je voudrais mentionner, pour la suite de mon propos, le fait qu'elle est justement somatopsychique, donc qu'elle invite à une action sur les distorsions de l'appareil psychique via le soma. Le corps et ses comportements. Et aussi le fait qu'il s'agit d'une théorie fondée sur l'observation, une théorie objectivante. C'est ainsi une théorie qui, d'une part, offre l'accès à tout traitement physiologique ou comportemental, et qui, d'autre part, ne dit rien de l'action ou de l'influence d'une manière de penser sur la manière de penser d'autrui. Autrement dit, pour moi, de l'action qui est propre à la psychanalyse. La métapsychologie, cette théorie désormais tout à fait classique, se fonde sur le concept de pulsion, dont la source est située dans le corps de l'individu. Ce sont le corps, ou plus précisément le sexe, l'érotisme, la libido, qui confère à cette théorie son versant à la fois solipsiste et objectivable. Les zones érogènes lient les représentations à la corporéité, au soma, et ce dernier pourvoit l'énergie nécessaire à la vie psychique, laquelle en dépend, mais de ce fait lui est secondaire. Ainsi, il faut que le corps vive pour que la pensée soit. Et si le corps vient à mourir, le psychisme est emporté dans la mort avec lui. Un corps sans psychisme est concevable. Un psychisme sans corps est inconcevable. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux, mais un déséquilibre en faveur du corps. Ou encore, il faut un corps pour parler, pour communiquer ses pensées, ses sentiments, ses émotions, et pour les éprouver. Sans corps, rien de tel. On va donc prendre soin du corps et de ses comportements, ce qui rend l'expérience psychanalytique superflue, ou tout au moins lui donne une connotation de luxe. Mais il n'est toutefois pas évident que le lien entre corps et énergie psychique, ou entre corps et pensée, aille de soi. Le saut du somatique au psychique demeure, toujours aujourd'hui, une des grandes énigmes de l'homme. Et l'influence de l'homme sur l'homme, de la pensée sur la pensée, des sentiments sur les sentiments, peut tout aussi bien se concevoir avec des corps comme moyens seulement. Si dans l'histoire contemporaine, Marx a réussi à bouleverser le monde avec les théories que l'on sait, en quoi son corps aurait-il eu d'autre rôle que de lui permettre d'exprimer ses pensées? Et du reste, Freud le sait bien. L'amnésie infantile, sa grande découverte d'une amnésie bouillonnant de pensées inconscientes. Vous savez que nous sommes tous frappés par l'amnésie infantile, on se souvient de rien de ce qui s'est passé dans nos premières années, et pourtant si on observe un enfant entre 1, 2 ou 3 ans, il se passe un nombre de choses et de découvertes absolument impressionnantes. Eh bien, cette amnésie infantile bouillonnante pensée inconsciente ne concerne pas les zones érogènes oubliées qu'il aurait fallu mater, mais bien l'amour. C'est l'amour maladroit, exigeant, inacceptable. C'est l'amour s'exprimant au besoin par la haine d'un enfant pour un parent ou pour lui-même qu'il s'agit de refouler pour survivre. La métapsychologie n'est donc pas tout, et Freud, ou le psychanalyste, s'efforce aussi de considérer le psychisme comme radicalement hétérogène au somatique. C'est ainsi que l'amnésie infantile peut s'expliquer, se comprendre et se légitimer par la théorie du complexe d'Édipe dans un contexte psychique, relationnel uniquement, ou psychosocial. Indépendamment des zones érogènes somatiques ou d'un pénis anatomiquement coupable, l'amour incestueux pour un parent est condamnable par le parent exclu. Quand papa sera mort, j'épouserai maman. Ou quand maman sera morte, j'épouserai papa. Cet amour peut légitimer la théorie du refoulement et lui suffire. Il s'agira dès lors d'une théorie de la pensée qui fait appel au langage comme expression et non plus au corps comme source. Un langage dont la seule nécessité est d'être le moyen le plus pratique et le plus sûr pour entrer en communication avec les pensées d'autrui. Il s'agit alors d'une théorie qui n'est plus somato-psychique et qui ne peut plus s'objectiver grâce à l'observation, car le théoricien pense et parle et ne peut plus échapper à sa propre subjectivité, à son propre inconscient, dont les racines sont à rechercher dans son amnésie infantile. La théorie métapsychologique était donc somatopsychique, elle était boiteuse d'emblée même avec sa source somatique, puisque Freud l'a conçue dans une optique solipsiste, hors de lui. Elle ne le concerne pas, puisque c'est lui qui théorise la métapsychologie, le fonctionnement mental des gens. Sinon, si elle l'avait concerné, elle aurait été fausse ou impossible à faire, puisqu'il n'aurait pas pu tenir compte de sa propre amnésie, de son propre inconscient. En objectivant l'appareil psychique, il a dû, s'il considère la métapsychologie comme vraie ou comme juste ou comme correcte, se mettre à la place de Dieu. Car Dieu, lui, est omniscient et ne souffre pas d'amnésie ni de subjectivisme. Mais comme l'on sait, pour Freud et pour le psychanalyste, Dieu lui-même fait partie du système, d'où l'objectivisation se révèle un projet pour le moins abusif, fondé sur la négation de sa subjectivité et de son propre inconscient. La métapsychologie, c'est alors la négation de la négation. C'est la négation de l'inconscient comme négation de l'objectivité. Je reviens à Freud et aux occasions où il prend en considération un psychisme non physiologique à sa base, autre que celui des pulsions dont la source est somatique, un psychisme pur, si je puis dire, un psychisme équivalent à la pensée, une pensée à la fois consciente et inconsciente. On en trouve, par exemple, une indication claire dans un texte qu'il a écrit en 1923. Intitulé « Une névrose diabolique au XVIIe siècle ». Il s'agit de l'histoire d'un personnage qui tente de se libérer d'un pacte qu'il a fait et qu'il a signé de son propre sang avec le diable. Et alors il va rejoindre les gens d'église pour essayer de se libérer de ce pacte. Et dans son introduction, Freud écrit ceci. « Les névroses du temps de l'enfance » nous ont permis d'apprendre que l'on peut y voir sans peine, à l'œil nu, maintes choses qui plus tardivement ne se donnent à reconnaître qu'à une recherche approfondie. Je dirais qu'ici il est optimiste, comme on le verra, et sans doute fait-il aussi allusion précisément au petit Hans. Puis à propos du personnage qui est habité par le démon, il poursuit. Nous n'avons pas à être étonnés que les névroses de ces temps précoces, voilà le Moyen Âge, entrent en scène sous un vêtement démonologique, tandis que celles du temps présent, non psychologique, apparaissent sous un vêtement hypochondriaque, déguisé en maladies organiques. On retrouve ici la dépression. Puis, on peut lire. La théorie démonologique de ces temps obscurs a eu finalement raison face à toutes les conceptions somatiques de la période des sciences exactes. Les possessions, donc cet homme est possédé par le diable, les possessions correspondent à nos névroses pour l'explication desquelles nous recourons à nouveau à des puissances psychiques. Les démons sont pour nous des souhaits mauvais, réprouvés, des rejetons de motions pulsionnelles écartées, refoulées. Nous récusons seulement la projection dans le monde extérieur que le Moyen-Âge faisait subir à ces entités animiques. Nous leur faisons prendre naissance dans la vie intérieure des malades, là où elles ont leur demeure. Et je crois que c'est bien là un superbe exemple d'intériorisation ou d'intériorité et de subjectivisation d'un système de pensée, un système qui décolle du monde extérieur et du corps où il était situé par erreur. La pensée, le psychisme, ce sont des entités, ce sont des sujets en soi et non plus des objets qui dépendent du soma ou de l'extérieur. Et le texte allemand dit à propos de ses souhaits refoulés, « Diese Wünsche im Innenleben, wo sie hausen. » Là où ils habitent, wo sie hausen. La vie intérieure est une maison. une demeure peuplée d'êtres, des êtres qui prennent naissance dans cette maison et qui ne viennent pas du dehors. Ce ne sont plus les murs de cette demeure, le corps avec ses zones érogènes, dont on va s'occuper et qui compte, mais l'intérieur, l'espace psychique lui-même, où naissent ces êtres. En langage gestaltien, le corps plein permet de voir la demeure en creux, mais en même temps, il la cache. Autrement dit, ces fameux démons naissent de la pensée, et pour être plus précis, de la pensée qui sera sujette au refoulement et à l'amnésie. Les sous-édipiens refoulés vont ainsi rétrospectivement réapparaître au XVIIe siècle comme des démons, mais aussi comme des anges ou comme des fées. Ce sont donc des souhaits ambivalents. Et à ce propos, on ne peut s'empêcher de penser aux pauvres sorcières du Moyen-Âge, dévouées, soignantes, pleines de compassion pour l'effroyable misère du peuple, et dont la récompense était d'être vouées au bûcher de l'Église, qui ne pouvait tolérer leur pouvoir jugé occulte ou menaçant par rapport à son propre pouvoir.